Hey, bonjour tout le monde. Salutations à vous tous qui êtes en salle, aux gens qui sont en ligne et spécialement à notre église satellite à Maniwaki. Hein, on les applaudit. On est content que vous soyez là avec nous. Ah ouais. J'ai bien hâte d'être avec vous dimanche prochain en salle là-bas. Et je veux remercier nos pasteurs Gilles Farley et Dominique King qui m'ont remplacé durant mes vacances et leur contribution a été fort appréciée. J'en ai eu des commentaires, alors merci beaucoup. C'est le fun d'être une équipe comme ça, où est-ce qu'on peut partager les responsabilités. Moi, j'ai été en vacances avec Nathalie. On était dans la région. Hier, on était à Mirabel. Et ça nous a fait du bien d'être en vacances. Et là, la vie recommence, on continue. Mais est-ce qu'il y en a, par applaudissements, qui sont heureux d'être présentement en vacances? Ouais. C'est pas pire. Qui sont contents d'avoir eu des vacances. OK. Puis ceux qui ont hâte d'être en vacances. C'est bon. Ceux qui sont toujours... pour ça, il y a bien des postes vacants. Hein? C'est le fun, les vacances. Moi, j'aime ça, les vacances. Écoute, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis bien actif, puis on a reçu des amis pendant les vacances, puis il y a une de nos amis qui disait, Éric, il dit, toi, tu dois avoir de la misère à relaxer. Il dit, viens-tu folle, toi? Moi, je veux dire, je suis heureux, moi, dans un hamac. C'est la belle vie. Puis même l'an prochain, je pense que je vais faire encore plus de hamac. C'est comme ça, ça m'a manqué un petit peu. Alors, c'est plaisant, les vacances, mais vous savez, pendant qu'on est en vacances, qu'on a du plaisir, si on regarde un petit peu les nouvelles, c'est désolant. Parce que partout à travers le monde, on regarde juste la question de la chaleur qu'il y a en Europe partout. On voit des injustices partout. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que l'été, je regarde moins les nouvelles, je regarde moins la télé. On dirait que je suis moins connecté avec ce qui arrive, mais ce n'est pas parce qu'on est moins connecté qu'il n'y a pas moins d'injustices. Vous savez, au travers toute la planète, il y a des injustices, qu'on soit dans un pays plus riche, dans un pays qui est en voie de développement, des injustices, on en voit partout, vous devez en voir partout, à journée longue, que ce soit au sein de votre famille, malheureusement, que ça peut être aussi dans votre milieu de travail. Et justement, je m'intéressais sur le sujet de l'injustice la semaine dernière, puis j'ai dit, tiens, je vais aller faire une petite recherche. J'ai tapé, c'est quoi la plus grande injustice? Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans le top 3, dans les trois premiers? Il y en a un qui m'a sauté aux yeux. C'était la question d'un article qui est intitulé comme suit. Quelle est la plus grande injustice de l'histoire du sport? Et dans un premier temps, Richard Labbé va répondre à cette question en disant, c'est assez facile de répondre à cette question à mon humble avis. Le but pas bon d'Alain Côté. Il faut avoir au moins 45 ans pour la comprendre, celle-là. Mais une fois de plus, on parle du but d'Alain Côté. On n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est certain. Mais sur une note plus sérieuse, en 2019, TVA Nouvelles soulevait que le système scolaire du Québec serait le plus injuste du Canada. Alors, ce qu'on soulève, c'est selon les informations qui proviennent de l'OCDE, là, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, ils vont dire que les jeunes issus de milieux défavorisés auraient ainsi beaucoup moins de chances de réussir. Ça, on sait tous ça. Mais le problème, c'est que c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de jeunes qui sont à risque. Alors, voyez-vous, puis je pourrais en sortir plein comme ça d'injustices qu'on vit. Il y en aurait des milliers. Lorsqu'un groupe, une organisation ou un individu ne se sent pas respecté, ne croit pas recevoir ce qu'il mérite ou qu'il reçoit plus que ce qu'il croit mériter, mais ça c'est rare que ça arrive, ou qu'il ne se sent pas apprécié à sa valeur, il va faire face à une forme d'injustice. Alors, dans la Bible, on peut voir entre autres que l'injustice a même amené des gens à être accablés, à devenir jaloux, ou à s'endurcir. Puis, ce qui est difficile avec le thème de l'injustice, c'est que c'est juste, des fois ça peut être juste pour un, mais ce n'est pas nécessairement pour l'autre. dans un couple, hein, ce que je considère juste, ben, on devrait dépenser là-dedans. L'autre va dire, non, on devrait dépenser là-dedans. Et ce qui paraît juste à mes yeux, ce n'est pas nécessairement ce qui paraît juste aux yeux de ma femme ou aux yeux des membres de mon entourage. Donc, tout dépend des critères puis de comment on évalue le contexte. C'est là que la justice peut varier. C'est pour ça qu'on doit se donner des critères pour dire, est-ce qu'on rentre dans les critères? C'est pour ça que nos palais de justice, là où est-ce qu'on règle les litiges, ils ont des règles, des critères, des règlements pour pouvoir évaluer si c'est juste ou non. Puis un des personnages de la Bible qui a subi son lot d'injustice, c'est l'apôtre Paul. On va voir ensemble une cause où est-ce qu'il a été accusé faussement. Et ça, c'est vraiment pas agréable de se faire accuser faussement. Tournez avec moi dans Acte 24 au verset 1. On va voir comment l'apôtre Paul a fait face à l'injustice. Pendant que vous tournez dans Acte 24, on va se recueillir devant le Seigneur, d'accord? Oui, Seigneur. C'est jamais plaisant de vivre de l'injustice parce que justement, c'est même blessant. Parce qu'on reconnaît que c'est pas juste de l'avoir vécu. Et merci que tu nous donnes dans ta parole des exemples d'injustice et un exemple au travers de l'apôtre Paul qui a passé au travers avec maturité. Je te remercie de nous instruire, de parler à nos cœurs et qu'on puisse tous être encouragés au travers ce message. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le chapitre 24 débute avec un duel d'oratoire de la part de deux excellents rhétoriciens. D'un côté, on a Tertulle et d'un autre côté, on a l'apôtre Paul. La cause qui est en cours correspond à la procédure romaine et selon certaines sources, un tel procès aurait été ouvert au public. Et il est fort possible que Luc, qui est l'auteur des Actes, a eu accès aux notes qui ont été prises pendant le procès. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est capable de citer ce qui a été dit puis comment ça s'est déroulé. Et dans ce genre de cause, où est-ce qu'on accuse quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, il y avait des règles à suivre. Si on regarde le chapitre 24, toutes les règles ont été, respectées, à l'exception de une. Le juge aurait dû trancher, mais il a laissé la cause sur les tablettes. Puis il faut dire que dans ce temps-là, l'arrêt Jordan n'existait pas. Donc c'est comme ça. Et je veux dire, évidemment, le système de justice aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'il l'était à l'époque. Mais il reste que l'apôtre Paul a été victime d'avoir été justement laissé sur les tablettes. Puis, il n'y a rien de rassurant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a une cause qui traîne, c'est stressant. Moi, j'ai toujours hâte que ça se règle. Tu sais, la semaine dernière, Nathalie et moi, on va au restaurant. Puis là, je découvre que j'ai des coupons. Où est-ce que j'ai des coupons cadeaux? OK, pour aller au restaurant. Mais là, ça fait longtemps, je les avais achetés avant la crise sanitaire. Fait que j'appelle l'entreprise, je dis, écoutez, êtes-vous sûr qu'ils sont encore bons? Elle dit, oui, ils sont encore bons, mais vu que ça fait longtemps, ça se peut que la personne en charge de l'établissement ne soit pas content ou qu'il refuse. S'il refuse, on va vous donner un dédommagement. C'est parfait, on y va. On arrive là, la femme regarde le coupon, elle est là. OK, je vais le prendre, c'est correct. Là, on sort de là, il était quoi, 7h30 à peu près? On sort de là à 7h30, on est heureux, on dit, on va retourner à la maison, on va aller écouter une petite série tranquille, Nat prend son bain, ça. Là, on finit d'écouter la télé, 9h30, je vois que j'ai eu un appel, mais j'avais enlevé la sonnerie. Je reçois deux messages en disant, ben j'accepte plus votre coupon. Là, je suis là, mais tu l'as accepté. Là, je suis tout à l'envers. Là, je rappelle l'entreprise. Le lendemain, elle dit, écoutez, c'est ce que vous avez fait, c'était correct. Là, on va voir avec le représentant de la région puis tout ça. On vous rappelle aujourd'hui ou plus tard lundi. Écoute, moi, c'est comme... Vendredi, j'appelle Je vais avoir une... J'ai-tu hâte que ça se règle lundi? Mais écoutez, l'apôtre Paul lui a été mis 2 ans sur les tablettes. Moi, c'est sûr que je n'ai pas le goût d'attendre 2 ans pour cette affaire-là. Puis c'est mineur par rapport à ce que l'apôtre Paul a pu vivre. Mais imaginez comment ça peut être angoissant de ne pas savoir ce qui t'attend. Puis le lendemain, tu dis, hey, je vais peut-être m'en sortir. Non, le surlendemain, non. Et il faut se mettre dans la peau de l'apôtre Paul. Même si c'est un homme rempli de l'esprit, c'est quand même un être humain qui vit ses défis devant Dieu. Donc, on peut voir dans ce chapitre-là qu'il y a comme 3 temps forts. Il y a premièrement l'accusation, ensuite la défense, et après on voit la suite des choses. Alors au verset 1, qu'est-ce que ça dit? 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Alors, Luc nous informe que le récit s'est passé 5 jours après que Paul ait été placé sous la garde de Félix à Césarée. Ça veut dire que les autorités juives n'ont pas perdu de temps à vouloir régler le cas de Paul. Donc, ils comptaient sur leur statut social pour avoir un gain de cause. Mais ça la donnait que Félix n'était pas toujours un grand admirateur du judaïsme. Et l'autre problème, c'était que leur cause était faible parce qu'ils ont dû engager un orateur professionnel pour les défendre. Alors, ils se sont fiés à son éloquence et ses capacités de convaincre. Alors, l'avocat, qu'on appelle Tertulle, dépose une charge officielle contre Paul. Donc, il dépose une mise en accusation. Et là, on voit au verset 2 à 4 que le préambule de sa plaidoirie. Et là, il commence avec un terme honorifique. Très excellent, Félix. Bien, nous aussi, au Canada, on a quelque chose de similaire, un genre de formule comme ça qu'on utilise. Par exemple, lorsqu'on s'adresse au gouverneur général ou au premier ministre ou le juge en chef de la Cour suprême, on va les appeler très honorables. Voici le très honorable. Bon, c'est souvent le titre, ça ne correspond pas toujours avec la démarche, mais ça, on va passer là-dessus. Alors, les historiens s'entendent pour dire que Félix avait tendance à mettre de l'huile sur le feu dans ses relations avec les Juifs. Et il y avait un frère qui siégeait à Rome, la capitale de l'Empire, et ça lui permettait de faire pas mal ce qu'il voulait sur le terrain. OK? Alors, c'est pour ça que Tertulle essaye de le flatter dans le sens du poil pour, comment je dirais ça, des Européens, en disant à l'amadouer, disons. Alors, Tertulle met aussi en valeur la contribution de Félix au Pax Romana qui a amené les Juifs à vivre leur foi dans une certaine paix. C'est pour ça qu'au verset 5, il va démontrer que Paul est une menace pour cette paix. Puis, n'oubliez jamais cette chose-là. Quand quelqu'un a peur de vous, là, il va chercher à vous diaboliser ou à vous neutraliser. Alors, c'était le cas ici. Alors, les autorités religieuses avaient peur que Paul crée un mouvement qui les détournerait de leur tradition. Alors, les opposants de Paul ne voulaient pas que l'enseignement de Jésus vienne renverser toute leur tradition qui était établie depuis des siècles. Et ça, c'est tout groupe, toute société ou tout mouvement religieux est appelé à revisiter ses traditions. Parce qu'une tradition, ça fait du sens dans un contexte, dans une époque, mais pas nécessairement dans une autre. C'est pas toujours facile de remettre en question nos traditions, surtout quand on y tient et on a toujours fait les choses de cette manière-là. Par exemple, quand j'étais jeune papa, j'avais établi une tradition qui faisait suer un petit peu mes enfants à certains moments. C'était que leur dimanche soir, je ne leur permettais pas d'aller voir des amis, c'était le souper en famille. Le vendredi soir, il y a la jeunesse. Le samedi, il y avait toujours des jeunes chez nous. Les enfants allaient chez des amis, ils se promenaient. Puis je ne leur donnais pas, quand ils étaient adolescents, je ne disais pas, il faut que tu rentres à telle heure. Je disais, tu me dis t'es où, puis tout ça. Puis je leur faisais confiance, puis on n'a jamais eu de problème. Fait qu'ils se sentaient libres. Mais le dimanche soir, c'est chez nous. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je voulais créer un sentiment d'appartenance. La semaine, le hockey, pour mon gars, ma fille, c'était ses cours de danse, tout ça. Et là, c'était un temps où est-ce qu'on est ensemble, on joue à des jeux de société, on mange ensemble. Mais qu'est-ce qui arrive? Mon beau Emmanuel, hein, vous l'avez vu, mon beau Emmanuel, il est en amour avec la belle Marianne. Puis elle est encore plus belle que dans le film de Robin des Bois. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben dimanche soir, papa, je ne souperai pas avec vous. Comment ça? C'est la tradition. Oui, mais il faut bien que j'aille souper dans la famille de Marianne aussi. Oh, là, ça m'a rentré dedans. C'est comme chanter. Oh, la famille apprend plus le même sens, la même proportion. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour se réunir, pour redynamiser ce noyau-là. Et c'est pour ça que des fois, des traditions, ça vient nous chercher, parce qu'il y a un lien émotionnel, il y a un sens à tout ça qui change à cause du contexte. Alors, et c'est pour ça que quand on lit ce passage-là, on peut se poser la question, est-ce que moi j'ai des traditions dans ma vie que le Seigneur veut revisiter, veut redonner un nouveau sens, veut réactiver, mais d'une autre façon? Et ça peut être une belle réflexion à avoir cette semaine. Revenons au chapitre 24, verset 5. Paul est accusé d'avoir provoqué une émeute, une révolution, en tentant de profaner le temple. Il y en a qui l'accusaient qu'il avait fait rentrer un non-juif dans l'endroit qui n'était pas permis aux non-juifs d'entrer, ce qui était tout à fait faux. Et c'est pour ça que c'est injuste, parce que c'est faux. Et Tertulle veut l'étiqueter comme la source du problème. Alors, au verset 8, Tertulle conclut sa plaidoirie. Et même s'il est éloquent, il n'apporte pas de faits. Il apporte des accusations, mais pas de faits. Il va démontrer que Paul est une peste, qu'il est un agitateur politique, un leader d'un mouvement sectaire, et surtout que l'un de ceux qui ont essayé de perturber le temple. Il veut faire croire que Paul est un zélote en puissance, parce que les zélotes, c'était des Juifs de l'époque qui s'opposaient à l'emprise de Rome, puis qui, à ce moment-là, menaçaient la paix romaine que Félix tentait de maintenir. Alors, Paul, en tant qu'ambassadeur de l'Évangile, luttait pas contre le système romain. Et il était même sympathique aux non-juifs. Il avait eu un ministère d'aller atteindre les non-juifs. Donc, c'était pas un gars qui cherchait la chicane, même si des fois, quand il prêchait l'Évangile, ça créait des tumultes. Alors, mais dans ce cas-ci, il était bien tranquille, il s'en allait au temple, il s'en allait pas parler à une foule, il s'en allait au temple, tout simplement. Alors, Paul avait enfreint aucune règle juive, puis il n'avait pas fait entrer un non-juif, dans la partie qui n'était pas permise. Alors, au verset 9, on voit que les Juifs qui sont avec Tertulle appuient ce que Tertulle a prononcé. Et là, c'est au tour de Paul. Mais Paul ne se laisse pas intimider. Paul, il ne se laisse pas intimider par l'éloquence de Tertulle. Il a de l'assurance parce qu'il est rempli de l'esprit. Et là, on voit dans les versets 11 à 21 que Paul présente sa défense. Puis il va proclamer sa confiance dans l'équité du juge. En d'autres mots, c'est comme, il est en train de dire, « Moi, je te fais confiance, juge. » Donc, il est en train de dire au juge, « Si tu observes les faits, tu vas voir, je suis non coupable. J'ai confiance en ton jugement. » Alors, il y a énormément d'assurance parce que les faits jouent en sa faveur. Et Paul est confiant que si Félix va fouiller, va vraiment aller au fond des choses, qu'il va gagner sa cause. Puis c'est pour ça que dans une cause juridique ou économique, plus on apporte des faits vérifiables, plus ça va jouer en notre faveur. Mais, il y a toujours un mais. Dans une chicane de couple, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que souvent, les hommes, nous, malheureusement, souvent les hommes, pas tous les hommes, mais un bon nombre d'hommes, au moins 5-6. Oh, ça fait écho. Souvent, les hommes jouent avec les faits pour s'en sortir, pour sortir du pétrin, ou pour démontrer qu'on a raison. Alors, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, oh, ça sonnait fort, excusez. Par exemple, tu es toujours parti. Alors, qu'est-ce qu'un bon mari va répondre? Les 5-6 au moins. Ils vont dire, ben là, je me suis occupé de ça, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour les enfants, je l'ai fait pour la cause. On s'est entendu là-dessus. Et là, qu'est-ce que les 5-6 femmes vont répondre? Ben, tu ne me comprends pas. Ben là, voyons donc. Et là, il va être tenté de justifier encore plus ce qu'il est en train de lui dire. C'est que tu es la personne la plus importante, puis je m'ennuie de toi. J'ai juste besoin que tu me le dises, que toi aussi, même si tu es bien occupé, tu t'ennuies de moi. Puis qu'il vienne la prendre dans ses bras, dire « Ah, wow, j'ai hâte qu'on passe un bon moment tout seul ensemble. » Voyez-vous, ce n'est pas la même chose entre une discussion de couple et une cause juridique. Alors, Paul, des versets 11 à 13, démontre qu'il n'est pas à l'origine de cette perturbation. Et c'est vrai. Les auteurs du tumulte, c'était des Juifs de l'Asie, qui ne sont même pas présents lors de cette plaidoirie-là. Alors, Paul s'identifie à la voix, hein, pas « voici la voix », non, la voix V-O-I-E, le chemin. Il s'identifie à la voix et non pas à une secte, comme le prétendaient ses adversaires. Et ça, c'est un indicateur intéressant parce que je me souviens que mon premier directeur de maîtrise, André Ouellette, me disait « Celui qui définit les mots est puissant. » Parce que quand on définit les mots, on donne un sens. Puis des fois, on utilise un mot, puis il n'est pas compris de la même façon. Ma première épouse, elle avait été éduquée dans un système scolaire anglophone. Primaire, secondaire, puis université, en anglais. Fait que des fois, elle utilisait des mots, ça me choquait, parce que, mais pour elle, ça n'avait pas le même sens que moi. Un exemple, le mot « église », ça n'a pas le même sens pour une personne ou pour une autre. Quand j'étais pasteur à Montréal, c'était une époque où est-ce qu'on fermait des bâtiments d'église. Ça passait dans les journaux régulièrement, on transformait ça en bibliothèque, en condo. Donc, il y a plein de bâtiments d'église qui fermaient sur l'île de Montréal. Puis là, ça donne que le 11 septembre 2011, l'église du coin ouvre ses portes. Alors, il y a des journalistes qui sont venus pour voir. Puis ils m'ont dit, pourquoi ouvrez-vous le 11 septembre 2011, 10 ans après les événements? Dû, parce que c'est la fin de semaine après la fête du travail. Et là, ils s'attendaient à d'autres choses. Et là, ils disent, OK, est-ce que vous allez vous changer? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas de tâche? Non, mais vous n'allez pas mettre votre soutane? On va prendre des photos. Mais non, mais moi, quand je prêche, je suis comme ça. OK. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de statue sur les murs? Comment ça se fait qu'il y a des instruments de musique? Est-ce que vous louez la salle à un groupe la fin de semaine? Et là, je voyais que dans la tête de ces gens-là, le mot « église » n'avait pas le même sens que moi. Et c'est pour ça que des fois, on parle à des gens et on pense qu'ils comprennent ce qu'on dit, mais c'est important de bien définir les mots. Et c'est pour ça que Paul, il dit « Non, moi je ne fais pas partie d'une secte, je fais partie de la voix. » Parce que c'était quelque chose qui avait été prophétisé dans Isaïe 40. En d'autres mots, moi, je suis là où est-ce que le Seigneur nous a appelés. Il a choisi le peuple juif pour préparer la voie du Messie. Et moi, je fais partie de ce que le Messie est venu, il a été préparé, et on entre dans cette voie-là. Et là, il est en train de dire, je ne suis pas contre les Juifs. On continue le chemin avec le bon leader, le Messie qui est annoncé. Et il va affirmer sa croyance en la résurrection des justes et des injustes. Comme quoi que c'est en ligne directe avec l'ancienne alliance. Il est en train de démontrer que ce n'est pas un problème qui est juridique. C'est un problème théologique qui est en ce moment. Puis en d'autres mots, il est en train de faire passer les Juifs qui l'ont accusé, leur faire passer comme, ben, vous n'êtes pas à bonne place, les gars, là. C'est pas ici qu'on doit régler ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, le texte en tout cas ne le révèle pas, puis le Saint-Esprit ne nous a pas donné cette indication-là. Paul va parler de la résurrection, mais à ce stade-ci, il n'élabore pas sur la résurrection de Jésus-Christ. Il va le faire plus tard, quand il va être seul avec Félix. Donc, nous, ça nous montre ce que, et ça confirme ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour toute chose. Et il démontre au verset 16 qu'il veut servir Dieu avec intégrité. Il dit au verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il répète essentiellement ce qu'il avait dit aux autorités juives au chapitre 23. Et Paul, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures, le fait d'être connecté et d'être sensible à notre conscience. Et c'est intéressant qu'il l'ait soulevé dans son plaidoirie. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que souvent, le thème de la conscience est à géométrie variable dans notre société. En politique, par exemple, il y a des partis politiques qui ne permettent pas à des députés de se soustraire d'un vote par motif de conscience. Et ça va contre la conscience de ces députés-là. Et ça, c'est triste. Et c'est important d'agir en fonction de notre conscience, parce que Dieu va nous demander des comptes de notre conscience. Il veut qu'on puisse grandir et développer une conscience pure autant que de développer, par exemple, une foi sincère. On voit ça dans 1 Timothée 1:5. Alors, au verset 17 à 19, il va expliquer qu'il ne s'était pas présenté pour parler à une foule avant l'émeute. Et que ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas été à Jérusalem. Donc, il n'a pas pu organiser un complot puis justement créer un tumulte comme ça. Il est en train de démontrer que, selon les faits, c'est un coup monté. Et c'est pour ça que Paul a compris ici que ses adversaires jouaient sur les perceptions. Et souvent, c'est toujours, souvent, ce qui va créer une tension ou une chicane, une dispute, c'est souvent attribué à des mauvaises perceptions. Et par exemple, souvent l'Église est mal perçue. Moi, j'écoute, quand je suis en voiture, j'écoute la radio, puis souvent j'entends soit des journalistes ou des commentateurs qui vont dire « On devrait couper les droits fiscaux aux églises parce que l'église contribue à rien dans la société. C'est juste entre eux qu'ils se font du bien. » Et ça, c'est une perception. Ce n'est pas basé sur des faits observables. La contribution sociale de l'église est grande. Elle contribue au développement des habiletés des gens, au développement social, à la maturité, à la stabilité émotionnelle, au don de soi, encourage et favorise le respect. Donc, ça a un impact dans nos milieux de travail, dans nos familles. Ça joue en faveur du sens des responsabilités, de l'engagement. Ça a un impact dans la stabilité sociale. Et c'est important de corriger ces fausses perceptions-là quand on discute d'une manière amicale, parce que ça amène une mauvaise vision de ce que c'est l'Église. Et Paul veut que Félix ait une perception plus juste de la situation. Et c'est là qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il dit, je suis venu pour faire du bien. Je suis venu pour amener justement un soutien financier à ma communauté juive, qui souffrent, qui ont des problèmes financiers, et amener une contribution au temple, une offrande. Alors, je suis venu pour faire du bien, puis on m'accuse d'être un malfaiteur. Voyez-vous comment c'est injuste? Et c'est pour ça qu'au verset 20 et 21, il va conclure son plaidoyer en affirmant essentiellement que ses opposants n'ont aucune preuve pour soutenir leur accusation. Et c'est ce qu'il veut que Félix comprenne, et que ce qu'on lui reproche, c'est tout simplement relié à des arguments théologiques et non des éléments légaux. Et donc, Paul réussit à établir qu'il y a une différence entre les chrétiens et les zélotes qui tuaient des gens. Et il a réussi à amener Félix à voir cette nuance-là. Alors, le problème, c'est que Félix, lui, il veut acheter la paix. Puis, ça lui ferait plaisir de recevoir un petit pot de vin pour régler la situation à l'amiable. Mais qu'est-ce qui arrive? Il décide de ne pas conclure, de ne pas donner de verdict, puis il laisse Paul en confinement pendant 2 ans. Il y a une certaine liberté, mais il est sous surveillance. Des gens peuvent venir le visiter. Il ne peut pas aller n'importe où. Il ne peut pas se rendre n'importe où. Alors, il est en confinement pendant 2 ans. Et qu'est-ce que fait Paul? Il cherche à tirer son épingle du jeu pendant qu'il vit cette injustice-là. Il ne revendique pas sa liberté. Il trouve tous les moyens de pouvoir témoigner de sa foi et de pouvoir exprimer la base de ses croyances. Puis il s'en remet à la justice pour sa libération et à Dieu, évidemment, ultimement. Et donc, Félix vient le revoir pour s'entretenir avec lui sur la foi, mais ça nous dit au verset 25 que lorsque Paul en vint à ce qui est la juste manière de vivre, la maîtrise de soi puis le jugement à venir, eh bien, Félix a frémi d'effroi. Et il lui a demandé de se retirer. À un moment donné, le Saint-Esprit a vraiment mis une conviction sur lui qui est un pécheur, mais ça y a fait peur. Puis plutôt que de laisser entrer cette lumière-là, il a voulu l'éteindre ou l'atténuer. Et je peux tellement comprendre. Moi, je me souviens, c'est l'été 83, je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en allais voir mes amis au Parc Rimbaud à Montréal. Et là, je vois une gang de gars qui sont assis, puis je m'en vais vers eux, puis je reconnais Réal Gaudreau, qui était devenu chrétien depuis une couple de mois, puis qui faisait partie d'un groupe de musique chrétienne. Et là, je m'assois, et ça se donnait que le pasteur de cette petite église-là, qui venait d'être implantée, rencontrait les musiciens de son église. Puis là, il commençait à partager la vision. Il partageait même pas l'évangile, il faisait juste partager la vision de ce que l'Évangile se répande au travers la musique dans les lieux publics. Et ça m'a tellement convaincu que je dis, « Hey, je suis pas en règle avec Dieu, moi, là. » Que je suis parti, je dis, « Il faut que je vous laisse. » Puis il fallait là, que je prenne des substances pour étouffer ma conscience parce que ça me parlait tellement fort. Mais Dieu merci, quelques mois plus tard, il y a eu le dernier mot parce que je suis ici pour vous parler de l'Évangile. Fait que... Mais pour vous dire comment est-ce que c'est des fois quand le Seigneur parle à nos cœurs, ça peut être intense dans certains cas. Pas toujours, mais parfois oui. Et là, on voit au verset 27 qu'il y a 2 ans qui se sont écoulés. 2 années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus. Mais pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. Le malheur se poursuit. Mais ce que beaucoup de commentateurs vont dire, c'est que possiblement dans ces 2 années-là que Luc a été chercher son matériel pour rédiger l'Évangile de Luc puis le livre des Actes. Ce qui est intéressant, c'est que Paul a atteint le plus haut niveau social de la nation puis ça lui a permis de témoigner de sa foi. Je me souviens une fois, j'étais en commission parlementaire avec Michel Habib, qui était à l'époque secrétaire général de l'association et un médecin. Mathieu Vincent, et puis on exprimait notre position en tant qu'association d'église aux députés qui formaient la commission parlementaire sur l'aide médicale à mourir, avant que la loi passe. Et là, on exprimait ce qu'on pensait, puis là, il y a une députée qui lève la main, puis elle dit, « Oui, mais monsieur Lantier, elle dit, vous ne pouvez pas imposer votre foi chrétienne à tout le Québec. » J'ai dit, « Madame, on ne veut pas imposer notre foi, on partage nos valeurs. Comment on voit l'aide médicale à mourir? » Et de la façon qu'on le voit, il y a des gens qui sont de foi athéiste ou de foi qui croient en Dieu, mais sous d'autres formes, qui ont la même position que nous sur le sujet. Et savez-vous ce que ça a provoqué? Là, il y a un autre député qui lève la main et qui dit, « Mais comment ça se fait que vous êtes Québécois, mais vous n'êtes pas catholique? Pouvez-vous m'expliquer comment vous êtes arrivé à la foi protestante? » On a tous témoigné, et c'est dans les annales de l'Assemblée nationale. On a partagé comment le Seigneur est venu nous sauver. C'était une occasion pour prêcher l'Évangile. Moi, j'étais béni, j'étais aux oiseaux. Dieu a été glorifié pendant ce temps-là. Et L'apôtre Paul a été trouvé fidèle devant Dieu. Il a fait toutes choses en bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et malgré ça, il a été traité injustement. Il a été mis sous surveillance pendant 2 ans et plus. Mais il a accepté son sort, même si c'était injuste. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 2, verset 19, que c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Même s'il a été traité injustement, Paul a assumé les conséquences parce qu'il faisait ce qui était juste devant Dieu, même si ça coûtait sa liberté. Vous savez, le piège, c'est de vouloir à ce que tout ce qu'on vit soit conforme à nos standards de justice. Or, l'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 7:16, l'Ecclésiaste nous défend d'être juste à l'excès parce que ça contribue à notre destruction. Et Paul nous met en garde dans Romains 10:3 que ceux qui cherchent à établir leur propre standard de justice ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Paul était conscient de ces pièges-là. La sagesse nous enseigne dans Proverbes 14:12 et dans 16:25, à 2 endroits dans les Proverbes, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors Paul, il n'a pas focusé sur son injustice, il a vu ça comme une opportunité d'annoncer l'Évangile puis de former des disciples qui venaient le rencontrer, qui amenaient du soutien. Et il a vu Dieu prendre soin de lui au travers ces moments d'injustice-là. Jésus nous dit que la justice de Dieu, celle qui est supérieure, se révèle lorsqu'on cherche à faire du bien à nos ennemis. C'est notre défi, c'est le défi ultime du chrétien. En conclusion, j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Il ne faut pas désespérer, même quand on croit que notre cause est désespérée. Je vais vous partager le témoignage du sac vert. Le tout débuta jeudi soir, avant d'aller au fameux restaurant. Je dis à ma femme, il faut arrêter à telle place parce que je veux faire goûter quelque chose de vraiment spécial à mon fils et à mon gendre. Elle a dit, OK, c'est correct. On est d'avance, on n'arrivera pas en retard. On est jeudi, on revient vendredi. Vendredi matin, on se lève, mais on était tous programmés. On se lève, on va au gym, après ça, on va à Hull, après ça, on va à Ottawa. Après ça, on s'en va à l'hôtel, puis le lendemain matin, on part. Mais là, je suis au gym. Là, je suis avec ma femme, on s'entraîne ensemble. Puis, je dis, « Oh, flûte! » Elle dit, « Quoi? » Tu sais, là, le sac de nourriture, je l'ai... Vu qu'on va être parti, tout ça, je l'ai mis dans le congélateur pour qu'il refroidisse, mais là, on est parti et on ne revient pas. Fait, il faut que j'aille le chercher, là, parce que là, ça ne sera plus bon. Ah, OK. Fait que, là, je finis ma musculation. J'ai dit, ben, regarde, je vais y aller, puis après ça, en revenant, je vais faire mon cardio. Mais elle a dit, OK, pendant ce temps-là, j'ai des courses à faire, parfait. Fait qu'on s'en va. On fait toutes nos choses, on arrive à l'hôtel. Vous savez, moi, je vais toujours chercher les chariots là, à roulettes pour mettre les sacs, tout ça, au lieu d'avoir plein de sacs, pour faire 3-4 voyages. Un voyage, je mets tout là-dessus. Mais là, le chariot recule. Puis un sac tombe, le sac vert. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Fait que je monte tout en haut, tu sais, bang, bing, boom. Là, je dis, Nat, le sac vert. Je n'ai pas vu le sac vert. Quel sac vert? Mais ça, que je suis allé chercher un matin, que j'ai fait un détour pour... T'as pas perdu le sac vert! Fait que moi, je descends en bas, je vois un camion, puis un monsieur. Là, je regarde en arrière, je dis, cherchez-vous quelque chose? Oui, mon sac vert. Ah, ben j'ai vu un gars avec un bicycle qui avait un panier en arrière. Il l'a pris, il l'a mis dedans, il est parti avec. Ah, boy! Fait que là, moi, des fois, quand je fixe quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Là. Je dis, non, on laisse pas ça passer, là. Non, non, non! Ce sac-là nous en a fait vivre de toutes les couleurs, du vert pâle au vert foncé, là, ça n'a pas de sens. Envers et contre tous, je m'en vais chercher la clé, puis je m'en vais le trouver. Les sceptiques seront confondus. Du, quel beau du. Alors, je m'en vais chercher la clé, mais là, il y a du temps qui passe. Là. Fait que là, je m'en vais, je fais le tour de tout le stationnement. Je dis, oh, oh, oh. Il est peut-être allé consommer au, au parc du lac Lemay. Fait que je m'en vais là-bas. Mais là, le temps descend. Là. Je m'en vais là-bas, je fais le tour du stationnement. Je dis, ah, c'est vrai, il est en bicycle, il a peut-être pris la piste cyclable. Ah, tant pis. Là, je retourne, puis il y a quelque chose qui me dit, va à l'épicerie à côté. Je vois-tu pas un gars en bicycle avec un panier? Le gars, il s'en allait rentrer. Si je suis arrivé 30 minutes, 30 secondes avant, je le manque. 30 secondes après, je le manque. J'arrive exactement comme il arrive devant la porte. Je ferme la porte de l'auto, je dis, « Hey, t'as mon sac vert! » Il dit, « Oui. » Puis là, il me l'a donné, puis je suis parti. Là, je dis là, « Wow, Seigneur! » Puis je réalise après, je dis, il y a 2-3 semaines, je vais dire, « Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu quelque chose de fun avec toi. » Tu sais, quelque chose d'excitant. Tu sais, ce sac-là, je veux dire. Dieu dit, « OK, m'a excité avec un sac vert, mon homme. » Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est que des fois, on a l'impression que la cause est perdue puis il n'y a plus rien à faire. Parce que dans notre imagination, on pense que ça s'arrête là. Mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot tant qu'on n'arrivera pas dans l'éternité. Alors, continuons à espérer en lui. Prions, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, même si on peut vivre dans ton plan des injustices, parce qu'on vit dans un monde où est-ce que le péché règne, où est-ce qu'il n'y a rien de parfait tant qu'on ne sera pas dans l'éternité avec toi. Mais toi, tu es juste. Tes principes sont justes. Ta parole est la vérité. Ta voix, c'est le chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Et oui, Seigneur, merci de confondre les sceptiques et de montrer que tu règnes même au-dessus de l'injustice. Toi, le grand Dieu juste. Et ce qui est injuste, Seigneur, c'est que tu sois mort à la croix pour nous sauver. Mais tu l'as fait par amour pour nous. Père, t'as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que tu puisses sauver des gens qui sont ici dans la salle, qui n'ont pas passé par le salut, qui n'ont pas connu cette nouvelle naissance, ou des gens qui sont en ligne. Seigneur, on veut se réjouir de voir de plus en plus que tu sauves encore aujourd'hui, tu transformes des vies. Tu amènes des gens à découvrir que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bonne semaine à tous.